Bonjour.
Émilie Blacher, vous signez un document, une enquête en l'occurrence, réalisée dans le Val d'Oise, dans la commune de Gonesse, où Michael Harpon, le tueur de la préfecture de police de Paris, fréquentait une mosquée dans laquelle vous n'avez pas pu rentrer puisque vous êtes une femme, et donc j'imagine que l'entrée était difficile pour vous, voire impossible. Mais vous avez enquêté autour de cette mosquée, la mosquée de la Fauconnière. Qu'est-ce qui apparaît à travers cette enquête ? D'abord qu'il était un client habituel
de
cet endroit.
Oui, en effet, Michael Harpon était un pratiquant plutôt fidèle, puisqu'il venait prier le matin et le soir, avant d'aller au travail
et après. Oui.
Ce qui apparaît dans cette enquête, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, tout le monde me dit que le cœur de la radicalisation n'est plus dans les mosquées, justement. Mais en revanche, c'est aussi l'endroit pour trouver d'autres fidèles qui peuvent parfois adhérer à vos idées un petit peu plus radicales.
Oui.
Donc aujourd'hui, il y a une enquête en cours concernant en tout cas le chemin de radicalisation de Michael Harpon. Plusieurs personnes de son entourage et de son cercle de prière ont été arrêtées cette semaine et interrogées, puis relâchées.
Parce que cette mosquée de la Fauconnière n'était pas, comme on dit, dans le radar de la police.
Il y avait quand même un second imam, celui qui dirigeait les prières, voilà, de manière quotidienne, du dimanche au jeudi, qui lui, par contre, était dans les radars des systèmes de surveillance. Il était fiché S pour fondamentalisme religieux. Donc, en tout cas, son profil est quand même intéressant. Je pense que les enquêteurs vont se pencher ces prochains jours sur son cas.
Émilie Blacher, donc, si je reprends ce que vous dites, c'est-à-dire c'est plus forcément dans les lieux de prière et de culte que ça se diffuse, c'est valable pour toutes les communes de France.
Exactement.
De Brest à Nice et de Charleville-Mézières à Bayonne.
En tout cas, ce qu'on remarque, c'est notamment dans le Val d'Oise, mais je parle aussi de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines.
Bien sûr.
C'est qu'il y a, on va dire, des courants extrêmement radicaux qui se sont radicalisés ces dernières années et qui, en effet, sortent des radars classiques de surveillance. Ce qui rend encore plus compliqué la tâche des policiers et des enquêteurs qui sont censés les surveiller. C'est qu'ils sont inodores, invisibles, mais la menace est toujours là, oui.
C'est à lire cette semaine, donc dans Paris Match, Gonesse, dans la mosquée de Michael Harpon. Il y a des photos, mais je rappelle, Émilie Blacher, que vous n'êtes pas rentrée dans le lieu même.
Non.
Puisque ça vous était rigoureusement impossible.
Oui.
Mais le photographe, oui, absolument. Mmh. Merci beaucoup en tout cas.
Merci.
Et avec nous également ce samedi matin, François Clémenceau. Bonjour François.
Bonjour Bernard.
On s'intéresse ce matin à ce qui est très certainement passé un peu inaperçu ces derniers jours. En l'occurrence, la révolte des populations indiennes en Équateur contre l'augmentation du prix de l'essence. J'ai vu passer des dépêches de l'agence France Presse, c'est vrai, mais il y a eu peu d'écho dans la presse française. Et pourtant, il y a eu des morts. En fait, bon nombre de pays de ce continent, le cône sud américain, sont en crise. Et vous vous demandez si ce n'est pas la démocratie tout court qui est en train de reculer.
Oui, commençons peut-être par l'Équateur. Là, c'est d'abord un mouvement social. On le sait peu, mais l'Équateur, comme le Venezuela, c'est un pays pétrolier et son système démocratique reste fragile. L'époque des coups d'État est finie, certes, mais la corruption a gangréné le pouvoir de droite, comme celui des deux derniers présidents de gauche. Et lorsque le FMI est venu demander des comptes, le président Moreno a mis fin à la subvention de l'essence, ce qui a fait doubler le prix des carburants. Comme partout ailleurs, l'essence, dès qu'on y touche, eh bien, ce sont les classes les plus modestes qui
Absolument.
Descendent dans la rue. Moreno a refusé de céder face aux Indiens des campagnes. Il y a eu 8 morts, mais il a fini par céder, ce qui ne fait que décaler la crise, car évidemment, c'est toute l'économie du système étatique qui est en cause.
La crise également en Argentine, et ce, malgré les aides massives du Fonds monétaire international.
Alors là, c'est une crise économique. Nous en sommes au 6e plan de redressement de l'économie depuis les années 80. L'Argentine est beaucoup plus riche, mais a vécu au-dessus de ses moyens. Le FMI, là, a déboursé presque 100 milliards de dollars cette année pour permettre au gouvernement de remettre de l'ordre dans sa gestion. Mais l'élection présidentielle est dans 8 jours et le président de centre droit libéral, Mauricio Macri, voit débouler avec un boulevard devant lui un candidat péroniste escorté de l'ancienne présidente Cristina Kirchner,
oui,
qui est en délicatesse avec la justice pour
corruption.
Néolibéralisme contre populisme, l'Argentine est aux prises avec les mêmes démons depuis la fin de la dictature militaire. Ce n'est pas qu'une crise purement économique, c'est aussi une crise citoyenne.
Et tout cela, François, alors que le Venezuela et le Brésil connaissent également une très grave crise de populisme.
Alors, le grand écrivain Mario Vargas Llosa, que vous connaissez, que j'ai
oui.
interrogé la semaine dernière, lui fait la distinction entre ces deux cas. À Caracas, la dictature néo-chaviste de Nicolas Maduro ne cesse de réprimer, s'agrippe à ce qui reste de richesses pétrolières pour tenir, alors que 10% de la population a déjà fui le pays. À Brasilia, c'est autre chose. Jair Bolsonaro applique, lui, une politique d'extrême droite validée par les urnes. même si la crise qu'il a vue naître est douteuse sur le plan juridique avec l'emprisonnement de l'ex-président Lula. Mais il reste une opposition, il reste des médias libres, même si beaucoup sont repris en main par les milieux évangéliques proches du pouvoir, il reste des syndicats et une société civile forte, rien n'est perdu.
Merci beaucoup, analyse de François Clémenceau, et merci aussi à vous, Émilie Blachère, donc de Paris Match. À tous deux, je souhaite une excellente semaine.